Olivier Motte, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes le président et directeur de Turenne Capital. On va parler avec vous de financement d'entreprise. Comment se porte justement ce financement des entreprises quand on parle PME, d'ETI? On entend beaucoup parler de start-up, mais le financement des PME fonctionne?
Oui, aujourd'hui, le financement des PME fonctionne bien. Je pense que d'abord le monde bancaire revient un petit peu à ses anciens amours, à savoir il recommence à faire du crédit. Mais au-delà de ça, les entreprises qui font appel à des sociétés de capital développement comme la nôtre, comme Turenne Capital, il y en a 5 000 en France en gros chaque année, et il y a peu ou prou 10 milliards d'euros qui sont investis, donc ce qui est tout à fait considérable. L'idée étant de soutenir ces entreprises, et quand on regarde en fait ces entreprises qui ont fait appel au private equity, elles connaissent une croissance qui est plus forte, hein, puisqu'en moyenne elles connaissent une croissance de l'ordre de 3%. Alors vous allez me dire 3% c'est pas beaucoup, mais par rapport à la croissance générale de l'économie française, c'est quand même pas si mal. Et puis surtout, elle crée des emplois. Sur les 5 dernières années, les sociétés qui ont fait appel au private equity ont créé 300 000 emplois. 300 000 emplois, c'est un chiffre qui est très significatif.
Alors, on sait que malgré tout, depuis la crise, on n'a pas retrouvé les niveaux d'avant la crise, hein, sur le private equity, notamment en France. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a plus d'entreprises finalement qui font de demandes que de financeurs encore?
Aujourd'hui, le marché est relativement simple parce que quand je vous dis il y a 10 milliards qui ont été investis, il y a en gros 10 milliards qui ont été cédés et en gros 10 milliards qui ont été levés. Donc le marché aujourd'hui, depuis 2014-2015, a retrouvé quasiment son niveau d'avant-crise et surtout il est sain. Il n'y a pas plus d'investissement que de désinvestissement et l'inverse est vrai aussi, donc c'est plutôt pas mal.
Justement, du côté des entreprises, on parle beaucoup d'entreprises innovantes, mais quelles sont les entreprises qui ont le plus besoin de financement aujourd'hui?
Moi, il me semble que les entreprises qui ont le plus besoin de financement sont finalement peut-être des entreprises plus traditionnelles. On parle évidemment beaucoup des startups, on parle beaucoup de ce type d'entreprises, mais qui font pour l'instant peu de chiffre d'affaires, qui créent à ce jour relativement peu d'emplois. Et je pense plutôt que les entreprises qui font l'économie, les belles PME qui font notre économie, elles, sont-elles qui ont besoin de financement? Je pense qu'en France, on le sait, hein, on souffre d'un nombre d'ETI qui ne sont pas suffisantes. Il faut absolument qu'on soit capable de transformer des belles PME en ETI et donc d'accompagner ces belles PME, notamment pour les emmener à l'international, par exemple.
Vous partez de l'amorçage et vous pouvez aller jusqu'au
Nous,
financement.
non, notre métier, je dirais, globalement, c'est du capital développement transmission. Ça veut dire qu'on investit dans des entreprises qui sont déjà rentables, qui sont matures et qui ont besoin de financements complémentaires pour les aider dans leur croissance organique, parce qu'elles ont une croissance organique très rapide, ou alors pour les aider à réaliser une opération de croissance externe d'ores et déjà identifiée. Donc c'est ça notre métier. Accessoirement, on traite un peu effectivement du sujet capital risque. On est notamment assez présent sur le secteur des biotech, qui est un secteur qui se développe beaucoup, qui est un secteur pour le bien de la société avec un grand S, donc quelque part ça nous va bien aussi.
Oui, là, il y a une vraie, on le
Ouais.
sait, même en bourse aujourd'hui, il y a une vraie communauté biotech
Oui,
française qui s'est créée.
voilà.
Donc, avec pas mal d'introductions. Sur le financement, est-ce qu'il y a des secteurs en particulier ou est-ce que, bah, comme tout bon financier, il faut diversifier ses
Alors,
investissements?
il y a, en fait, sur le financement, oublions pas que notre métier, c'est le long terme, financer dans le long terme. Donc, il faut faire un peu de macroéconomie et il faut savoir se projeter sur l'avenir et se dire, finalement, dans 8-10 ans, quelles seront les entreprises, quels seront les secteurs qui auront connu de la croissance pendant ces 8-10 ans? Et il y en a deux chez Turan Capital qui nous semblent être prépondérants. Il y a le secteur de la santé, pour toutes les bonnes raisons que chacun comprend, notamment le vieillissement de la population qui fait que, bien sûr, les soins pour les personnes âgées notamment vont continuer à croître. Donc le secteur de la santé nous semble particulièrement pertinent, pardon. Et puis il y a le secteur de l'hôtellerie, aujourd'hui, où n'oublions pas que la France est le deuxième pays au monde en nombre de touristes, hein, et le secteur de l'hôtellerie se porte particulièrement bien, même si ponctuellement sur Paris, du fait des attentats ou du fait aussi des Airbnb qui est très présent sur la place de Paris, le marché est sans doute sur Paris un peu plus difficile.
Et là, qu'est-ce que vous faites justement particulièrement? Parce que là, il y a des grandes chaînes, mais vous, sur
Alors,
la partie financement.
on a des accords de partenariat avec le groupe Accor. Vous savez que le groupe Accor investit beaucoup, notamment à l'international. Et il a beau être coté en bourse, il a besoin peut-être d'un peu de cash aussi pour rénover en fait son parc hôtelier en France. Donc il change un peu de métier. En France, il était exploitant d'hôtel et il devient un peu un métier de conseil puisqu'il fait du conseil en management de ses hôtels. Et c'est pour ça qu'on travaille avec lui. Donc on lui rachète les fonds de commerce et les murs d'un certain nombre d'hôtels, Novotel et Mercure par exemple. Et ensuite, ils nous donnent un contrat de management. Ça veut dire que le groupe Accor continue à superviser d'une manière très étroite en fait, les investissements qu'on réalise dans l'hôtellerie.
Alors pour les investisseurs, on trouve beaucoup d'investisseurs qui sont concernés notamment par l'ISF hein, sur ce domaine-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont demandeurs de type de produits, FCPI par exemple?
Aujourd'hui, vous savez qu'il y a 300 000 personnes qui payent l'ISF en France pour un rendement attendu pour l'État de 5,4 milliards. Donc c'est quand même quelque chose de significatif. Et vous savez que l'ISF est perçu par tous ceux qui le payent comme un impôt profondément injuste. Donc, il y a en gros 100 000 personnes chaque année qui défiscalisent tout ou partie de leur ISF via notamment les FIP FCPI. Je rappelle que sur les FIP FCPI, les mandats et autres sociétés holding, en gros, en 2015, le marché a levé 1 milliard, donc sur les 5 milliards. Donc, il y a 1 milliard qui ne rentrera pas dans les caisses de Bercy cette année puisqu'il sera directement investi dans les PME. Mais je pense que c'est très, très important que ce modèle puisse continuer avec ou sans ISF. Donc, ça, peut-être que si l'année prochaine, c'est un candidat de droite qui passe et que l'ISF sera supprimé, il faudra envisager d'autres modèles, notamment peut-être en travaillant sur, vous savez, les FIP, impôts sur le revenu, et en remontant un peu l'avantage fiscal qui n'est plus que 18% pour le porter peut-être à 30%, de manière à ce que finalement cette source financière pour les PME puisse continuer à perdurer. Je pense que c'est important. Et puis, c'est aussi important pour le citoyen de se rapprocher du monde des PME. Vous savez, le FIP, Fonds d'investissement de proximité, le législateur avait souhaité en fait rapprocher le contribuable de l'entreprise. Et je pense que c'est une bonne chose.
Et l'investisseur, parce qu'au-delà de la défiscalisation, au bout des 8 années, il faut quand même qu'il ait aussi un certain rendement malgré tout. Est-ce qu'on y arrive globalement et est-ce que vous y arrivez?
Alors, on y arrive, bien sûr. L'idée, c'est que, effectivement, l'investisseur ne se contente pas uniquement de l'avantage fiscal. L'investisseur va rechercher une performance. Je pense que aujourd'hui, dans l'ensemble de nos différents fonds, notamment en fin de vie, au moment où on liquide le fonds, on arrive peu ou prou à rendre des fonds positifs. Néanmoins, il y a du risque hein, dans l'investissement dans le PME, on le sait bien. Et une difficulté sur une entreprise peut amener le fonds peut-être à, en fin de parcours, pas forcément à avoir une performance positive. Néanmoins, avec l'avantage fiscal, le souscripteur est la plupart du temps gagnant.
Il pourrait y avoir à l'avenir peut-être plus d'investissements encore directs PME parce que finalement...
Alors, effectivement, aujourd'hui, le législateur a encouragé l'investissement direct dans les PME avec un avantage fiscal qui peut atteindre 45 000 euros, alors que dans les FIP FCPI, il est limité à 18 000. Donc, on voit bien que le législateur pousse, en fait, pour les investissements directs dans les PME. Et nous, on est très présents aussi sur ces investissements directs via nos mandats hôteliers pour souscrire donc dans des augmentations de capital, dans des hôtels Novotel ou Mercure, ex-Accor.
Merci, Olivier Mode, d'avoir fait le point avec nous.
Ben écoutez, j'étais ravi de cette conversation.